en habit vert. Une émission de la rédaction de Canal Académie.
On retrouve Anne Muratori-Philippe.
Pour cette nouvelle édition de En habit vert, consacrée à Edme François Jomard, membre de l'Académie des inscriptions et belles-lettres pendant plus de 40 ans, et figure emblématique de la fameuse expédition d'Égypte organisée par Napoléon Bonaparte en 1798, je reçois aujourd'hui son biographe, M. Yves Lessu. Yves Lessu, bonjour. Vous êtes archiviste paléographe. Vous avez été directeur de la prestigieuse bibliothèque du Muséum national d'histoire naturelle avant d'exercer les fonctions d'inspecteur général des bibliothèques. En 1993, vous avez publié à l'Imprimerie nationale un ouvrage qui m'a fait rêver sur les animaux du Muséum de 1793 à 1993. Passionné par l'histoire des sciences, vous avez raconté l'histoire du Muséum d'histoire naturelle dans un ouvrage abondamment illustré chez Gallimard Découverte, avant de vous occuper de l'exposition qui, en 1998, célébrait le bicentenaire de l'expédition d'Égypte. Cette même année, vous avez publié « L'Égypte, une aventure savante avec Bonaparte, Kléber, Menou, 1798-1801 ». À cette occasion, vous avez découvert le personnage d'Edme François Jomard et vous lui avez consacré une biographie que vous avez intitulée « Jomard, le dernier Égyptien ». Biographie qui a été préfacée par Jean Leclan, secrétaire perpétuel de l'Académie des inscriptions et belles-lettres. Orientaliste et géographe, bourreau de travail à la personnalité attachante, Jomard n'a pas été récompensé à sa juste valeur par Napoléon. Si pour les initiés de l'épopée napoléonienne, il a été l'homme qui a mené à bout de bras l'édition de la description de l'Égypte, pour le plus grand public, Jomard est resté un savant bien discret, trop souvent occulté par l'entregent de Vivant de Nom, par exemple, ou l'ambition d'un Champollion. Et pourtant, outre le travail colossal accompli pendant plus de 25 ans pour aboutir à la publication de la description de l'Égypte, Jomard a été l'un des cofondateurs de la Société de géographie. Égyptophile, il a créé une école égyptienne à Paris pour former les jeunes Égyptiens à la culture occidentale. Faute d'avoir pu être à la tête du département des antiquités égyptiennes au musée du Louvre, il a dirigé le département des cartes et plans à la bibliothèque royale, puis impériale, aujourd'hui nationale. Et on lui doit une petite géographie de la France à l'usage des enfants. Les questions d'éducation, d'ailleurs, et d'enseignement ont occupé une partie de sa seconde vie. Tout comme les liens qui unissent l'Égypte et l'Afrique, il a toujours imaginé que l'Afrique et l'Égypte avaient une part, toutes les deux, importante dans leur histoire. Enfin, Jomard a été un académicien exemplaire, prenant à cœur sa mission. Il sera choisi, d'ailleurs, par ses confrères pour présider les inscriptions et belles-lettres deux fois, en 1838 et en 1853, précisément les deux années où la présidence de cette académie entraîne celle de l'Institut tout entier. Et lorsqu'il
pose des questions, il est absent au baptême de la moitié de ses enfants, et toujours est-il que Madame Jomard, la mère du héros, qui, elle, paraît avoir une tête solide, s'est séparée de bien de son mari. Et lorsque celui-ci meurt en 1803, il ne laisse quasiment rien. Il est absolument ruiné. Il a vécu pendant quelques mois aux frais de son fils, mais il est absolument ruiné. Alors, donc, cette famille Jomard est réduite à un état, sinon de misère, du moins de grande, grande économie. Et le jeune Jomard, transporté à Paris, est inscrit au Collège Mazarin.
C'est-à-dire ici où nous sommes,
là même où
le Collège des Quatre
s'est
Nations.
Installé l'Institut de France par la grâce du premier consul. Alors, ce Collège Mazarin a l'avantage pour les parents Jomard que les études y sont gratuites. L'avantage évidemment pour une famille dont les moyens sont limités. Mais en plus, pour l'élève, ce collège est intéressant parce qu'on y reçoit une excellente formation. C'est un des meilleurs collèges de la capitale. là, le jeune Jomard va apprendre non seulement les humanités, comme il est de règle dans le régime universitaire de la fin de l'Ancien Régime, à la Faculté des Arts, mais aussi un petit peu de mathématiques et de sciences, puisque le Collège Mazarin est un des rares où l'on a un enseignement scientifique. Toutes ces leçons ne seront pas perdues. Alors il passe donc 2 ans au Collège Mazarin. Normalement, à cette époque, quand un jeune homme de 14, 15, 16 ans quitte la faculté des arts, les plus gros bataillons s'orientent vers une des 3 facultés qui complètent le cursus universitaire, la théologie, la médecine ou le droit. Jomard n'est tenté par aucune de ces voies. Il hésite pendant quelques mois. Il suit des cours un peu partout, notamment, on dit la tradition au Jardin du Roi, au Jardin des Plantes. Et puis survient ce qui est probablement une grande chance. C'est un récit qui s'est conservé dans la famille Jomard. Jusqu'à quel point est-il exact, on ne sait trop. Enfin, toujours est-il qu'un jour, Madame Jomard prend la patache pour se rendre à Versailles, où elle a dû garder des affinités. Et comme elle parle à ses voisins de l'avenir de ses enfants et de son fils chéri, Edme François, qui est un gaillard assez brillant, qui fait de très bonnes études, eh bien, il y a quelqu'un qui l'écoute et, en descendant de la voiture, qui s'adresse à elle en lui disant « Eh bien, écoutez, madame, si vous voulez, envoyez-moi demain votre fils, je verrai ce que je peux faire. » Alors, ce monsieur, c'est Perronnet, qui a la haute main sur les études, sur les études que l'on fait dans une des meilleures écoles techniques de la fin de l'Ancien Régime, à savoir l'École royale des Ponts et Chaussées. Alors, bien entendu, Jean-Marc saisit cette chance, il est admis aux Ponts et Chaussées, comme on pouvait l'être à cette époque, c'est assez extraordinaire. Monsieur Perronnet l'a repéré, on lui fait passer un examen, il paraît avoir les connaissances nécessaires et suffisantes, il devient élève des Ponts et Chaussées. L'école des Ponts et Chaussées de cette période n'est pas dans une de ses meilleures phases. En tout cas, Jomard est un peu, semble-t-il, assez déçu, au moins assez pour saisir la première autre chance qui se présentera à lui. À cette époque, les ingénieurs des Ponts et Chaussées, assez curieusement, sont instruits par leurs aînés. Il n'y a qu'un cours vraiment technique qui leur est donné par un professeur en titre, et c'est le cours de dessin. Pour ce qui est de l'enseignement professionnel, dirait-on, ils sont formés par ceux qui les ont précédés. Et cet enseignement un peu théorique, complété donc par du dessin, se poursuit à la belle saison par des travaux pratiques sur le terrain.
Sur le terrain, bien sûr.
Voilà. Alors, Jomard fait ça pendant quelques mois, et puis survient l'occurrence à laquelle j'ai fait allusion de la création de l'école polytechnique.
Voilà, Monge et Berthollet.
Voilà, alors quand Jomard entend parler de la création de cette école, qui promet d'être prestigieuse, ne serait-ce que par la personnalité de ceux qui la patronnent, eh bien il saisit cette chance et bon, il passe le concours et il est admis. Alors, l'école ouvre en 1794. À ce moment-là, l'école polytechnique a un cursus de 3 années. Aujourd'hui, c'est 2 ans. À ce moment-là, c'est 3 années. Et la Convention a décidé de recruter 400 élèves pour meubler ces 3 années. Et avec un petit retard dû aux circonstances qui sont passablement difficiles, l'école ouvre enfin et Jomard est placé dans la 2e année. Pour faire fonctionner la machine, qui doit fonctionner donc sur 3 années, on a, après une période qu'on appellerait probatoire, de cours révolutionnaires, entre guillemets, on a classé les élèves en 3 années. Les plus chevronnés entrent directement dans la 3e année, les élèves moyens dans la 2e, et les moins forts ou les plus jeunes entrent en première année. Il semble que Jomard ait été classé en 2e année, enfin lui il fait 2 ans. Voilà. Il fait 2 ans dans cette école polytechnique où là il suit les cours, les professeurs qui sont absolument prestigieux. Cette école polytechnique de 1794 devait être un milieu assez pittoresque, ne serait-ce que parce que, par l'hétérogénéité des élèves que l'on avait recrutés,
évidemment,
il y en avait qui venaient de tous les coins de la France, ils étaient un peu de tous les niveaux, ils sont en général très jeunes, 15 ans, 16 ans, et puis ils vivent dans un Paris où les conditions de vie sont extrêmement difficiles. Les événements politiques se succèdent. Comme ils sont élèves au service de la nation, ils échappent à la conscription. Mais en revanche, ils sont astreints au service de la garde nationale. Et c'est ainsi que, pour un oui ou pour un non, ils sont appelés à revêtir l'uniforme et prendre le fusil et à intervenir dans quelques-unes de ces journées dont le calendrier de l'histoire de la Révolution a retenu le nom. Par exemple, la journée du 13 Vendémiaire, les élèves de Polytechnique sont requis. Et puis, il y a les événements, puisque la tradition dit qu'ils se sont dérangés en masse pour aller voir tomber la tête de Fouquier-Tinville ou d'autres circonstances de cette sorte. Et vous avez pu voir dans le livre qu'un jour, Monge, voulant avoir le cœur net, se rend à l'école pour voir qui est là et qui n'est pas là à l'heure.
Effectivement.
Et à 10 heures du matin, il y a encore nombre d'absences. Ça n'est qu'en fin de matinée que tout le monde est présent. Toujours est-il que, malgré tout ce que peut avoir de chaotique cet enseignement, où d'une part les élèves ont quelquefois du mal à suivre les cours de ces illustres professeurs, ou d'autre part ils manquent de moyens matériels, ils n'ont pas de crayons, ils n'ont pas de compas, on ne chauffe pas les locaux, ils ont à peine à manger car il y a des hivers de famine épouvantables, ils ont donc des conditions matérielles très dures, et cependant ils finissent par faire de très bonnes études. Ils garderont de ce passage à l'école polytechnique un souvenir inoubliable. Ils, et en particulier, un souvenir d'admiration sans borne pour leurs professeurs, qui paraissent s'être beaucoup occupés de leurs chers élèves, qui paraissent avoir été très proches. Monge et Berthollet, en particulier, qui prennent certains d'entre eux pour leur donner des cours le soir, qui suivent leurs études, qui les encouragent, ont été, plus que des enseignants, ont été presque des pères,
des oui,
parrains pour leurs jeunes élèves. Ils gardent tous donc un très bon souvenir de cette école et en même temps, très tôt, ces jeunes polytechniciens ont conscience d'appartenir à une élite. Et très vite, ils vont se targuer de leur qualité d'ancien élève de polytechnique. Et se comparant aux autres jeunes gens qui eux aussi ont fait des études différentes, ils s'estimeront au moins égales sinon supérieures.
Eh bien, nous allons faire une pause et nous retrouverons Jomard à la sortie de l'IX. En compagnie d'Yves Lessus, cet En habit vert est consacré à Edme François Jomard héros trop discret de l'expédition d'Égypte et membre de l'Institut pendant plus de 40 ans. Nous avons laissé notre ami Jomard pratiquement à la sortie de l'X. Alors, que devient-il et vers quoi s'oriente-t-il ?
La convention a prévu pour les élèves de cette école diverses formations d'application entre lesquelles ils devront choisir. Jomard choisit l'école des ingénieurs géographes. Et c'est assez surprenant au premier abord parce que ça n'est pas, et de loin, l'école la plus prestigieuse. Or, il est sorti dans un assez bon rang. Il pourrait prétendre notamment à entrer dans le corps des ingénieurs des ponts et chaussées. Mais il faut se rappeler qu'il est déjà passé par les ponts et chaussées. Peut-être lui est-il difficile de revenir à d'où il vient, à moins que déjà sa vocation, son goût pour les sciences de la géographie, tout ce qui se rattache à la géographie ait déjà été affirmé, ce qui paraît tout de même assez douteux. Enfin, toujours est-il qu'il choisit la carrière d'ingénieur géographe et c'est là que le début de cette carrière, dans le début de cette formation, car on commence par un enseignement d'application de celui reçu à l'école polytechnique, c'est là que survient une autre chance de sa vie, l'événement probablement décisif de sa longue existence, c'est l'expédition d'Égypte.
Comment fait-il pour y être intégré dans cette expédition d'Égypte ?
Alors, c'est une aventure qui commence de façon assez extraordinaire, puisque Bonaparte est revenu d'Italie au mois de décembre 1797 et mène ses affaires au pas de charge, comme d'habitude. À peine l'année est-elle terminée qu'il est déjà un membre de la première classe de l'Institut. Après, le directoire, qui est peut-être un peu pressé de se débarrasser de lui, l'a nommé commandant en chef de l'armée d'Angleterre, avec la mission de vaincre le dernier ennemi de la République, oui, qui est la Grande-Bretagne. Mais Bonaparte n'a pas tellement envie de se mesurer aux Anglais chez eux. Il n'a pas tellement envie de risquer l'aventure de la traversée de la Manche et de se mesurer à la puissante marine anglaise. Il fait lui-même une petite mission d'inspection sur les côtes. Il en confie à deux généraux deux autres. Et puis il conclut au début du printemps que non, c'est pas ça qu'il faut faire. Si on veut vaincre l'Angleterre, il faut prendre le problème par la bande et aller vaincre l'Angleterre en Égypte, en lui coupant la route des Indes. Il est, dans cette opinion, aidé par le nouveau ministre des Relations extérieures, Talleyrand. C'est une des premières visites que Bonaparte a fait à Talleyrand en revenant d'Italie. Ils ont été en correspondance pendant les derniers mois de la campagne d'Italie, alors que Bonaparte négociait le traité de Campo Formio. Et quand il revient à Paris, une de ses premières visites est pour Talleyrand. Les deux hommes s'entendent, on a un peu envie de dire,
oui,
comme là on en voit.
Tout à fait.
Enfin, en tout cas, ils sont d'accord. Et à force de tarabuster le directoire, dans les premiers jours de mars 1798, ils arrachent la décision de l'expédition d'Égypte. Une décision camouflée, on dit qu'on va armer les côtes de la Méditerranée, on ne parle pas d'Égypte, mais enfin c'est l'expédition qui est décidée.
Oui, ça s'est passé dans le plus grand secret.
On essaie au moins de garder le plus grand secret. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que cette décision est prise, si ma mémoire est bonne, le 5 mars, et que la flotte française quitte les côtes le 19 mai. Ça veut dire que dans ce très court intervalle de temps, le nouveau général en chef a rassemblé une armée de plus de 30 000 hommes, une flotte de 70 ou 75 navires de guerre, à peu près 300 navires de transport, et puis cette fameuse commission des sciences et des arts, puisqu'il a voulu que cette expédition dans un pays qui passe pour être le lieu d'origine de la civilisation de l'Occident, c'est pas l'Égypte, c'est la mère des civilisations, dans ce lieu, il a voulu, lui qui vient d'être nommé à la première classe de l'Institut, la classe des sciences physiques et mathématiques, il veut absolument associer les sciences et les arts à la conquête militaire. Bonaparte, dès cette époque, est très soucieux de ne pas passer pour un traîneur de sabre, mais pour un général éclairé. Alors, comment se recrute-t-on ? Bien sûr, comme il faut faire très vite, Bonaparte s'est confié à quelques hommes de confiance qu'il connaît depuis longtemps. Par exemple, pour les gens de lettres et les artistes, il s'est adressé à Antoine-Vincent Arnault, qu'il connaît depuis la campagne d'Italie. Il lui a dit « cherchez-moi des gens ». Et puis, on songe évidemment à toutes les institutions établies et on commence par interroger ceux qui sont les plus évidents. Bonaparte connaît Monge depuis l'Italie. Il lui demande évidemment de recruter dans le milieu de l'école polytechnique. Et l'école polytechnique va fournir un gros bataillon à cette commission des sciences et des arts. Environ entre les élèves et les professeurs, 44, 45, 46 personnes, quelque chose comme ça. Alors, ces jeunes polytechniciens, eh bien, beaucoup vont répondre avec enthousiasme à la proposition qu'on leur fait. Certaines grandes figures de la science ou des arts refuseront de partir. Des têtes plus chenues ou plus raisonnables se diront qu'une aventure comme celle-là, c'est tout de même un peu risqué. Par exemple, Cuvier, ressenti au Jardin des Plantes, refusera de partir. Mais dans l'ensemble, les jeunes partent, et des moins jeunes aussi. Monge, qui a une cinquantaine d'années, qui va être un des nestors de cette compagnie, accepte avec l'enthousiasme. Il faut dire que Monge est dans une admiration sans borne pour le jeune Bonaparte. Il s'embarque avec un enthousiasme extraordinaire. Il faut se rappeler que ces jeunes gens ont donc suivi à Polytechnique l'enseignement de gens comme Monge et Berthollet, qu'ils admirent et qu'ils aiment beaucoup. Et donc, si on leur dit « venez avec nous », ils vont s'engager à partir. Et puis, il y a tout de même la personnalité, le prestige de Bonaparte qui a atteint des sommets auxquels on a du mal à réaliser, même dans notre société où on aime beaucoup les vedettes. Bonaparte ne peut plus sortir à cette époque de chez lui sans que plusieurs centaines de personnes se mettent à l'acclamer, à le suivre. C'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles le directoire le trouve si encombrant. Alors, mais ce qui est le plus extraordinaire de tout, c'est que comme on veut garder le secret, car après tout, faire traverser la Méditerranée à une armée de 35 000 hommes sur près de 400 navires, c'est quand même un coup extrêmement risqué, compte tenu de la valeur de la marine britannique. On veut garder le secret le plus longtemps possible et surprendre les Anglais. Alors, pour cela, on prend des mesures assez drastiques. On ne prononce jamais le mot « Égypte ». Et à ces jeunes gens, les militaires, eux, on ne prend pas de gants à prendre. On leur dit rassemblement et vous irez là où on vous dit d'aller. Mais pour ces jeunes gens qui sont des civils, il faut quand même leur donner quelques explications. On se contente de leur dire, voilà, Bonaparte sera le général, Monge et Berthollet vous conduisent. On ne vous dit pas où on va, on ne vous dit pas combien de temps ça durera. Mais sachez que si vous avez un traitement actuel, il vous sera conservé et il sera versé à votre famille pendant que vous ne serez pas là. Et puis, ceux qui auront vécu cette aventure prestigieuse, eh bien, le gouvernement s'en occupera et ils sont assurés, à leur retour, de faire une carrière plus qu'honorable. Et les voilà partis. Ils sont partis dans ces conditions. Jomard avait donc 21 ans. Il n'était pas le plus jeune, d'ailleurs.
Oui. Après une pause, nous allons essayer de voir ce que devient notre ami Jomard en Égypte. Et puis, nous allons aussi évoquer toute l'histoire et l'aventure des autres savants qui sont autour de lui.
Partager le savoir, c'est la découverte avec nos journalistes de la présence de la langue française dans le monde. Avec Christa Leuc, vous rencontrez les directeurs des Alliances françaises. Avec Marianne Durand-Lacaze, vous vivez l'expérience et l'engagement des professeurs de français à l'étranger. Avec Françoise Thibault, vous visitez les universités du monde. Partagez le savoir en direct ou en médiathèque sur Canal Académie.
Compagnie d'Yves Lessu, cet habit vert consacré à Edme François Jomard, membre de l'Institut, personnage important de l'expédition d'Égypte. Nous l'avons abandonné sur le bateau et il arrive à Alexandrie. Que devient-il? Que fait-il? A-t-il une mission lui-même?
Jomard n'est pas une personnalité marquante de l'expédition.
Voilà,
il est jeune encore. Et il y a dans cette cohorte, aussi bien chez les gens de lettres, les artistes, que les scientifiques, il y a des gens qui sont beaucoup plus titrés et en vue que lui. L'expédition a duré à peu près exactement 3 années. Et les Français ont débarqué en juillet 1798 à côté d'Alexandrie et l'aventure s'est terminée en août 1801 par la capitulation de cette même ville, Alexandrie. Pendant ce laps de temps, Jomard, comme ses camarades ingénieurs géographes, ingénieurs des ponts, enfin ingénieurs en général, a beaucoup travaillé. D'abord, au débarqué, il a contribué à lever le plan des villes, des ports, des lieux que l'on abordait d'abord et dont le général en chef voulait avoir des plans. Puis, arrivé au Caire, Il a assisté au début d'organisation du travail scientifique qui se faisait autour de l'Institut d'Égypte, dont il n'a pas fait partie d'ailleurs. En août 1798, après la bataille des pyramides, Bonaparte fait son entrée au Caire, met en place les institutions dont il va se servir, et en particulier fonde ce fameux Institut d'Égypte. Oui. 4 classes de chacune 12 membres, dont Jomard ne fera jamais partie. Jomard, encore une fois, est un jeune. Alors, ce qu'il a fait en Égypte, il a exécuté des missions techniques comme ingénieur géographe. Ces jeunes ingénieurs géographes travaillent en général en équipe avec des ingénieurs des ponts et chaussées, qui sont leurs camarades, et puis avec des ingénieurs militaires, en général des officiers du génie, qui sont presque toujours associés aussi. Jomard travaillera surtout en Moyenne-Égypte, dans cette province qu'on appelle Fayoum. Il explore notamment la région du lac que l'Antiquité appelait le lac Moeris. C'est une dépression naturelle sur laquelle on a évoqué beaucoup de questions et soulevé beaucoup de problèmes et émis beaucoup d'hypothèses. Il contribuera lui-même à un peu éclaircir le problème par un mémoire qui sera présenté à l'Institut d'Égypte. Il a travaillé au Caire. C'est certainement un des Français de l'expédition qui a travaillé le plus minutieusement sur le Caire, puisqu'il a été chargé de faire un relevé tout à fait exact des monuments, des rues, des lieux remarquables à n'importe quel point de vue, de compter les bains, les minarets, les cafés, toutes sortes de monuments. Donc, Jomard, à la fin de l'expédition, est certainement l'un de ceux qui connaît le mieux la ville du Caire. Et d'ailleurs, il en a gardé un souvenir très présent et qui lui sera très cher toute sa vie.
Il est tombé amoureux du Caire, on dirait.
Il est tombé amoureux du Caire. Il a fait une très belle description de la vue qu'on peut avoir du haut de la citadelle du Caire. Il décrit avec enthousiasme cette belle ville qui, à cette époque, était certainement son genre magnifique, qui a beaucoup, beaucoup souffert au XIXe siècle. En particulier, toute cette partie ouest du Caire, où étaient établies les superbes maisons des chefs mamelouks. Civil en particulier découvre avec ravissement que sur ces petits ânes, on peut se déplacer à toute vitesse dans toutes les rues du Caire, mais ça les amuse follement, au point qu'il faudra qu'un règlement officiel les oblige à se déplacer sur ces ânes de façon un peu plus modérée pour éviter les épisodes désagréables. Enfin, voilà. Donc, avec les militaires, c'est tantôt assez bien, tantôt moins bien, et pour finir, assez mal. Avec Bonaparte, les choses se sont bien passées. Bonaparte, encore une fois, veut absolument passer pour un général éclairé. Et il traitera avec beaucoup de révérence les scientifiques, d'ailleurs souvent illustres, qui sont partis avec lui. Il refusera, par exemple, lors de la fondation de l'Institut d'Égypte, comme tout le monde le regarde, au moment où on commence à parler de présidence, dira « Non, non, pas moi. Monge, je vous en prie, prenez. » Il se contentera de la vice-présidence. Et comme les présidents sont renouvelés tous les trimestres, il attendra le second trimestre pour présider à son tour. Mais il a des rapports avec les savants, qui sont en général bons, et de façon assez paradoxale, c'est probablement à l'époque de Bonaparte que, individuellement, les savants ont été les plus libres. Ensuite, Kléber est loin d'être un ignorant, il a fait des études d'architecte, il dessine très bien, il a beaucoup de goût, et il s'entendra très bien avec les savants qui s'empresseront de les lire à l'Institut d'Égypte. Au contraire, avec le dernier commandant en chef, Menou, les choses iront beaucoup moins bien. Général assez imbu de son autorité et de son grade de commandant en chef, maladroit certainement, tatillon, et puis qui commettra un certain nombre de fautes psychologiques majeures. Tous ces militaires et ces civils qui ont grandi à l'époque de la Révolution dans une France qui est devenue complètement agnostique, sinon athée, reprochent paradoxalement à Menou son abjuration, parce que Menou, croyant faire une manœuvre politique, a abjuré son christianisme de famille pour se faire musulman. Il a épousé la fille d'un propriétaire de bains à Rosette, et il pousse l'inconscience ou la maladresse jusqu'à donner à son fils le même prénom que celui de l'assassin de Kléber. Ce qui n'était évidemment pas d'une extraordinaire adresse.
C'est pas très délicat.
Pas très délicat. Alors, ceci, joint à certaines mesures d'un autoritarisme un peu trop pointilleux, ne tarde pas à envenimer très fort les relations entre les savants, comme les militaires les appellent, et puis les militaires en particulier, le général en chef. Mais pas seulement les savants, puisque les généraux qui sont adjoints à Menou s'opposeront parfois violemment à leurs supérieurs directs.
Et pourtant, malgré les difficultés, ces savants ont recueilli une masse énorme d'informations et se passionnent aussi pour les hiéroglyphes. Tous apparemment, d'après ce que vous dites.
Alors oui, parce que ces jeunes gens, qui appartiennent à toutes les professions, il y a les ingénieurs qui forment d'assez gros bataillons, mais enfin il y a des gens parmi ces civils qui sont architectes, ingénieurs, artistes, écrivains, antiquaires, tout ce qu'on peut imaginer. Il y a un chanteur d'opéra, il y a tout. On avait tout emporté, même un piano à queue à bord des vaisseaux de l'expédition. Ces gens vont ramasser sur le sol de l'Égypte une moisson de renseignements, de dessins, de notes, de toutes sortes, vraiment extraordinaires et dans des conditions, encore une fois, très difficiles. Contrairement à ce que veut la légende, ils n'ont pas rapporté énormément de souvenirs, entre guillemets, mais ils n'ont pas pillé l'Égypte. Oui. Le pillage des antiquités de l'Égypte,
c'est l'Angleterre.
C'est d'une période postérieure.
Oui.
C'est sous les années de notre restauration et du règne de Louis-Philippe. Mais ils ont ramassé en tout cas une documentation extraordinaire et puis quand même quelques morceaux de bravoure, à commencer par la célèbrissime pierre de Rosette.
Voilà, nous y venons à la pierre de Rosette. Expliquez un petit peu rapidement ce qui s'est passé.
Quand les Français arrivent en Égypte, il y a très longtemps que personne ne lit plus les hiéroglyphes. En fait, depuis la conquête arabe, enfin, peu s'en faut. Du 7e, 8e siècle, on ne lit plus en Égypte les hiéroglyphes. Les hiéroglyphes, c'est un thème qui revient, on prête à cette écriture, tout le monde comprend bien qu'il s'agit d'une écriture, mais quelle écriture, basée sur quel principe? Et comme l'Égypte passe pour la mère des civilisations, on prête à cette écriture hiéroglyphique toutes sortes de significations, plus ou moins ésotériques. C'est grâce à cette écriture difficile que les anciens Égyptiens ont caché les trésors de leur science et de leur sagesse. Et donc, celui qui découvrira le secret des hiéroglyphes va conquérir une nouvelle toison d'or ou déchiffrer l'énigme du sphinx. Il se trouve que dans l'été de 1799, peu avant le retour de Bonaparte en France, alors qu'on fait des travaux de fortification sur la côte méditerranéenne de l'Égypte, près de la ville de Rosette, dans le delta du Nil, en faisant des fondations, on sort de terre une pierre qui a été remployée pour la construction d'un vieux fort. Et cette pierre, on s'aperçoit tout de suite qu'elle est extraordinaire. C'est un jeune officier du génie, qui est polytechnicien d'ailleurs, c'est un jeune polytechnicien, tout frais et moulu sous lieutenant du génie, qui voit tout de suite que c'est intéressant parce que elle est divisée en trois parties et ces polytechniciens qui ont appris du latin et même un peu de grec, eh bien, ce jeune lieutenant Bouchard, puisque c'est Bouchard qu'il s'appelle, il voit tout de suite que c'est important parce que la pierre est en trois parties et il y a du grec. Et il a l'idée, qui n'est pas seule, loin de là, que ça pourrait bien être trois fois le même texte dans trois écritures différentes. Or, si on ne sait pas lire les hiéroglyphes, si l'écriture du milieu de la pierre est une énigme, on voit bien que le bas est gravé en grec, alors on exhume la pierre en grande pompe, c'est le général Menou, le futur commandant-chef qui commande la province, qui confirme que c'est important, et on va l'envoyer au Caire, où tout le monde va se passionner pour ce problème. On déchiffre l'inscription grecque, qui n'a pas un grand intérêt, qui est tardive, mais l'intérêt, c'est de pouvoir, on se dit, on a le grec d'un côté, les hiéroglyphes de l'autre, et puis une écriture qu'on ne tarde pas à identifier comme une écriture plus cursive que les hiéroglyphes. On a donc ces trois versions d'un même texte, en passant du grec qu'on connaît à celle qu'on ne connaît pas, on devrait arriver à déchiffrer. Et c'est l'aventure de l'égyptologie qui commence.
Voilà, tout à fait. Je vous propose de nous arrêter un instant et de reprendre l'aventure égyptienne un petit peu plus tard.
Oh.
plus que des ingénieurs militaires revenant d'Égypte. À ce titre, depuis son voyage en Haute-Égypte, il est évidemment passionné par tout ce qui touche à l'Égypte. Il voudrait bien rester à Paris, où il est évident que de tout ce que l'on a rapporté, on va faire quelque chose.
Bien sûr.
Connaissant Bonaparte, ça ne peut pas ne pas se faire. Il voudrait bien rester donc près des affaires, mais il est ingénieur géographe, il a le statut militaire, il doit obéir, et on l'envoie en Bavière. On ne sait pas pourquoi, d'ailleurs, Jomard était en termes exécrables avec le général Berthier, qui était le chef d'état-major général de l'armée d'Orient, qui était le bras droit de Bonaparte. On ne sait pas pourquoi, mais ça remonte assez loin, puisque en Égypte, déjà, Berthier avait essayé de l'empêcher d'aller en Haute-Égypte. Et quand il revient en France, il n'y a rien à... Monge et Berthollet ont intervenu pour lui, mais il n'y a rien à faire. On l'envoie en Bavière, où là, il passe quelques mois d'été et d'hiver assez rudes à dresser des cartes, qui ne sont pas inutiles, parce que la République française, c'est encore la République consulaire, entretient des relations importantes avec la Bavière, et ces régions vont être ensuite le théâtre de nombre des campagnes napoléoniennes. Là, il fait donc une œuvre de géographe classique, mais bien entendu, dans le même temps, il fait des pieds et des mains pour se faire rappeler à Paris, et finalement, Monge et Berthollet réussissent, au printemps de 1803, à le faire revenir à Paris.
Les membres de cette expédition d'Égypte sont les Égyptiens. Je pense qu'ils doivent tous se serrer les coudes depuis leur retour.
Ils ont formé une communauté assez extraordinaire, oui. En Égypte, les militaires les avaient appelés les savants. Qu'ils aient été imprimeurs, architectes, dessinateurs ou ingénieurs, c'était les savants. Les militaires aimaient bien comparer les ânes et les savants et avaient, dit-on, surnommé les ânes d'Égypte des demi-savants. Les savants, rentrant en France, sont devenus les Égyptiens. Il faut dire que le premier consul, puis l'empereur, a toujours réservé des faveurs particulières à ceux qu'il avait connus en Italie et en Égypte, et presque tous les anciens de ces moments de son existence ont été favorisés par lui. Alors on a reproché à ces anciens de l'expédition d'Égypte d'accaparer les crédits et les faveurs du régime consulaire puis impérial, et on les a appelés les Égyptiens. On les a acculés aussi de monopoliser l'Académie des inscriptions. Alors les Égyptiens ont formé une communauté assez extraordinaire, car ces jeunes gens, qui encore une fois appartenaient à tous les horizons intellectuels ou professionnels, et qui ne se connaissaient évidemment pas, sont restés extrêmement liés, et pendant très longtemps, puisque en 1862, donc 60 ans après le retour de l'expédition, Jomard a présidé le dernier banquet des Égyptiens. Il n'y avait plus d'Égyptiens, pratiquement grand protecteur de ses maîtres, Monge Berthollet.
La grande aventure, donc, ça va être cette aventure éditoriale de la description de l'Égypte. Je crois qu'il va y passer 25 ans de sa vie. Il a des difficultés, non ?
Ah, ça a été un peu le rocher de Sisyphe. Il s'est embarqué avec enthousiasme dans une entreprise dont il n'est sorti que dans les dernières semaines de 1829, avec une lassitude évidente. Il a fallu négocier avec les auteurs. Je crois qu'il a connu 15 ministres de tutelle de l'entreprise, auquel, à chaque succession, il a fallu refaire la présentation de l'ouvrage, démontrer l'intérêt de l'entreprise, quoiqu'elle coûtait fort cher, obtenir des crédits, des postes, etc. Il a fallu déménager. L'entreprise a d'abord été logée auprès du Louvre. En 1816, on l'a installée dans les locaux de l'Institut. Il y avait des difficultés de toutes sortes. Et puis, c'était un ouvrage très considérable. Des textes écrits par 43 auteurs. Oui. Les auteurs, comme chacun sait, ne sont pas toujours des personnages faciles à manipuler. Une illustration de plusieurs centaines de planches, plus de 800 planches. Des planches souvent immenses, car le premier consul avait voulu faire un ouvrage magnifique. Des planches dont certaines ont demandé 2 ans de travail au même graveur, malgré l'invention de la fameuse machine à graver de Conté, qui permettait de faire mécaniquement tous les traits, tous les fonds, etc., ça représentait encore un travail immense. Donc cette entreprise a été, pour Jomard, extrêmement accaparante et probablement, à certains moments, un véritable calvaire. Il a dû pousser un ouf gigantesque quand
lorsque
ça a été
c'est
fini.
Terminé. Alors nous allons faire une pause et nous allons reprendre les aventures de Jomard dans quelques instants.
La médiathèque de Canal Académie, c'est plus de 800 émissions en libre téléchargement. Vous avez aimé ce programme ? Vous avez apprécié cette émission ? Vous aimeriez réentendre cet académicien ? Retrouvez cette émission dans la médiathèque de Canal Académie. Le téléchargement est gratuit.
Je suis toujours en compagnie d'Yves Lessu pour cet En habit vert consacré à Edme François Jomard que nous venons d'abandonner dans cette extraordinaire aventure de la description de l'Égypte qui lui a coûté quand même beaucoup de soucis et qui ne lui a pas fait que des amis puisqu'il s'est retrouvé face au frère Champollion. Et que peut-être s'il n'avait pas eu cette description de l'Égypte, ce travail colossal à réaliser, il aurait peut-être pu obtenir d'autres faveurs qui sont allées au Champollion. Alors, quels étaient effectivement les rapports avec les Champollions et comment ça a commencé cette aventure ?
Eh bien, l'expédition d'Égypte a eu une histoire intellectuelle, un retentissement considérable et continue d'ailleurs de fasciner.
Oui, tout à fait.
Mais dès cette époque, le prestige de la civilisation égyptienne, la conquête de la pierre de Rosette, tous ces épisodes ont fait beaucoup parler, beaucoup écrire. On parlait déjà d'Égypte à la fin de l'Ancien Régime, il y avait déjà une certaine égyptomanie dans les dernières décennies de l'Ancien Régime, mais alors à partir des années 1800, ça a été en croissance rapide dans le monde savant en particulier. Donc, l'étude de la civilisation égyptienne a été en très grande faveur et la publication de la description de l'Égypte, publication très progressive, ne pouvait que contribuer encore à renforcer cette mode. Alors, sur ce terrain, effectivement, ceux qui étaient en charge de la publication de la description de l'Égypte, qui avaient été dans leur totalité des membres de cette expédition, se considéraient un peu comme les propriétaires de cette entreprise, non seulement de cette entreprise, mais les propriétaires de la civilisation égyptienne. Ils trouvaient naturel que eux et eux seuls soient chargés d'en parler. Alors, chacun sait que Champollion, enfant prodige, avait dans sa première enfance déjà décidé qu'il serait le grand homme de la civilisation égyptienne. Et il est venu à Paris en 1807, il a fait un premier séjour qui s'est pas très très bien passé. Enfin bref, à un moment ou à un autre, il ne pouvait que se trouver en concurrence avec Jomard. Donc Jomard a mené des combats sur toutes sortes de terrains. Il lui faut poursuivre la publication et si possible la terminer de cet immense ouvrage le plus vite possible et à moindre frais. Comme il est l'un des auteurs, et l'un des auteurs importants de cette description d'Égypte, où il a publié des travaux longs et remarquables, il se trouve de ce fait en concurrence et quelquefois en débat intellectuel avec d'autres Égyptiens qui sont également des collaborateurs de la description de l'Égypte et qui n'ont pas les mêmes idées que lui. Par exemple, sur toutes les querelles sur la longueur de la coudée égyptienne qui l'oppose à un de ses supérieurs hiérarchiques directs, l'ingénieur en chef des ponts et chaussées, Pierre-Simon Girard. Oui. Et puis, il se trouve en concurrence aussi, ou en débat, ou en hostilité, avec des gens qui sont extérieurs à la commission d'Égypte, notamment les frères Champollion. Chacun sait comment Champollion Figeac, l'aîné, a élevé son jeune frère comme une sorte de futur champion olympique, comme une espèce de sorte de bête
de
à concours. Et les Champollion ont fait une ascension assez fulgurante, puisque sans avoir jamais passé d'examen universitaire, ils se sont retrouvés dans les années 1809-10, professeurs à la faculté de Grenoble. Alors, bon, les choses iront en se développant, la concurrence ira en se développant et en s'aigrissant. Jomard, à n'en pas douter, aurait bien été royal, puis national, puis impérial, des services signalés. Jomard est le vrai fondateur
du
département actuel des cartes et plans.
Alors, il y a une autre facette du personnage, c'est qu'il participe à la création de la Société de géographie.
Oui.
Mais il ne quitte pas l'Égypte, il reste égyptophile. Et là aussi, je pense que vous devriez raconter l'aventure de l'école égyptienne à Paris. Oui. C'est assez étonnant comme projet.
Oui, parce que parallèlement, cet homme d'une activité
Débordante,
on l'a taxé souvent d'agitation même, court toujours plusieurs lièvres à la fois. Pendant qu'il publie la description de l'Égypte, il s'est beaucoup impliqué dans le développement de l'enseignement élémentaire à l'usage des classes défavorisées, notamment. Il a été un des grands défenseurs de l'enseignement dit mutuel. De même, on va le nommer conservateur à la Bibliothèque royale. Quand s'achève la publication de la description de l'Égypte, il s'est énormément impliqué dans ce qu'on a appelé l'école égyptienne de Paris. L'affaire consistait à accueillir en France, et plus particulièrement à Paris, quelques dizaines de jeunes Égyptiens que Mehemet Ali envoyait en Europe pour se former et devenir, à leur retour en Égypte, les cadres du nouvel État modernisé qu'il rêvait de fonder. Alors, en 1826, Jomard a été l'homme à tout faire de cette première école égyptienne de Paris, loger ces jeunes gens, leur assurer un programme d'enseignement soit le plus profitable possible, leur faire visiter ici ou là en France des écoles ou des lieux qui pouvaient leur apporter quelque chose, et les munir d'un bagage intellectuel tel que, en effet, ils puissent répondre aux espoirs que Mehemet Ali avait mis en eux. C'était compliqué, puisque ces jeunes gens posaient toutes sortes de questions. D'abord, ils ne savaient pas un mot de français, c'était déjà un obstacle. Ensuite, ils venaient en France à une époque où la fameuse question d'Orient était en train de se développer. Et ces jeunes gens enturbanés débarquaient en France au moment où la France était philhellène. Oui. On parlait des massacres de Kyo, on parlait des affreux Turcs, tout ce qui ressemblait à l'Orient méditerranéen était très suspect à Paris. On s'était donc demandé si c'était bien prudent de faire venir ces jeunes Égyptiens à Paris, ces costumes. Ça posait donc des tas de problèmes, dont certains très inattendus. Et finalement, les choses se sont assez bien passées. Plusieurs de ces élèves de l'école égyptienne, notamment le fameux Tataoui, qui a été une des grandes figures de la Renaissance intellectuelle égyptienne au XIXe siècle, ont gardé un excellent souvenir de leur passage à Paris avec Jomard. On a organisé des examens, il y avait des concours, des audiences publiques présidées par des généraux de l'expédition d'Égypte. Enfin, il y avait tout un folklore autour de ces jeunes gens. Et Mehemet Ali a été très, très reconnaissant à Jomard. Et de ce moment, Jomard a été considéré en France et surtout en Égypte comme le grand ami des Égyptiens. Il est devenu officieusement, car on ne lui a jamais confié aucune mission officielle dans la matière, il est devenu officieusement le porte-parole des intérêts égyptiens à Paris. Mais Mehemet Ali, qui voulait le pensionner, n'a pas réussi. Jomard a refusé toute espèce d'argent, mais il a accepté une superbe tabatière en or que Mehemet Ali lui a donnée et avec laquelle il s'est fait portraiturer sur la fin de sa vie. Les derniers portraits qu'on a de lui sont un Jomard vieux monsieur assis qui tient dans sa main la fameuse tabatière comme un bâton de maréchal de France.
Il a d'ailleurs été fait bé.
Il a été fait bé par le descendant de Mehemet, le deuxième descendant, Saïd.
Saïd, oui.
Oui, celui qui a ouvert la voie au canal de Suez. Il a été fait bé, Jomard bé, oui.
Je vous propose une pause avant de retrouver Jomard à l'Institut.
Thank you.
Je suis toujours en compagnie d'Yves Lessu, biographe d'Edme François Jomard, qui est le héros et le principal personnage de cet En habit vert, car Edme François Jomard a été membre de l'Institut. Nous l'avons vu courant plusieurs lièvres à la fois, jouant des rôles importants dans toutes les commissions, les administrations, au sein de la géographie, du monde de la géographie, créant une société d'ethnographie américaine et orientale, mais il a été aussi...
En plus d'autres missions annexes à l'Académie des inscriptions, où il a beaucoup travaillé, il a fait profiter l'Académie des inscriptions de ses travaux menés pour la Société de géographie, et réciproquement, puisque à la Société de géographie, il s'est intéressé à toutes sortes de problèmes, non seulement aux sources du Nil, toujours la chère Égypte, mais aux antiquités américaines, des tas de problèmes. Et tous ces aspects de son activité sont liés, et culmine en quelque sorte dans les travaux qu'il a présentés à l'Académie des inscriptions.
Il a aussi prononcé énormément d'éloges funèbres.
Il a prononcé beaucoup d'éloges funèbres, puisque dernier des Égyptiens, il a enterré successivement tous ses amis. Je me suis amusé, vous l'avez vu dans mon livre, à dresser une liste de ceux-ci. Et les derniers sont morts seulement quelques mois avant lui. Alors tous les grands personnages de l'expédition, eh bien, il les a accompagnés à leur dernière demeure. Il a pris la parole devant leur cercueil. Pour beaucoup d'entre eux, il s'est occupé de leur faire élever une statue, à Geoffroy Saint-Hilaire, à Larrey, à Denon et à d'autres. Et il a été de plus en plus le représentant, l'incarnation, non seulement de l'amitié franco-égyptienne, mais de cette extraordinaire communauté des Égyptiens français.
Et il a même milité en faveur du percement de l'isthme de Suez.
Il a milité en faveur du percement de l'isthme de Suez. C'était quelque chose d'un peu douloureux pour lui, dans la mesure où les ingénieurs de l'expédition d'Égypte s'étaient assez grossièrement trompés dans l'affaire, puisqu'ils avaient... Reprenant une idée qui était dans l'air à la fin du XVIIIe siècle, ils avaient conclu qu'il y avait une différence de niveau entre la mer Rouge et la mer Méditerranée, une différence de niveau d'une dizaine de mètres. Ce qui avait fait recommander aux ingénieurs de l'expédition, à l'empereur, il avait recommandé, plutôt que de percer l'isthme, de reprendre le schéma de l'Antiquité et de percer un canal qui irait de la mer Rouge au Nil, et puis par le Nil à Alexandrie, ce qui avait un double avantage, éviter cette différence de niveau. On se demandait ce qui allait se passer le jour où on ferait communiquer des mers qui avaient 10 mètres de différence de niveau, et puis autre avantage, de redynamiser le port d'Alexandrie, qui était la porte traditionnelle de l'Égypte. Alors, quand il a fallu, chez les Égyptiens, entre guillemets, admettre qu'on s'était trompé et qu'en fait les deux mers étaient du même niveau et que de ce fait la bonne solution c'était de percer l'isthme de Suez, ça a été un peu dur. Mais enfin, Jomard a fini par se rallier à la vérité évidente et puis il a même été président d'honneur du premier conseil d'administration du canal. D'ailleurs, Ferdinand de Lesseps, qui a été en relation avec Jomard, en relation très amicale d'ailleurs, et qui a remis à la Société de géographie le premier prix Jomard, fondé par sa fille, par la fille Jomard, a rappelé qu'il avait longuement conversé avec Jomard et que c'était Jomard qui lui avait un peu tout appris sur le canal de Suez. C'était peut-être un peu exagéré, mais enfin, c'était très gentil en tout cas.
C'est en tout cas un bon coup de chapeau, parce que pauvre Jomard n'a pas été très récompensé. Au cours de
sa carrière.
La gloire
de Champollion, la lassitude qui a entouré la fin de la publication de la description, s'est démêlé à la Bibliothèque nationale pour essayer d'ériger les collections géographiques en départements autonomes. Tout ça lui a procuré des heures, mais aussi des malheurs.
Alors Jomard a été très assidu à l'Institut.
Très.
Il y venait à pied puisqu'il habitait le 7e arrondissement. Bon, et après il a habité à la bibliothèque royale, impériale. Mais il venait à pied à l'Institut.
Toujours à pied.
Il longeait le quai. On peut imaginer Jomard ici dans les lieux.
Il a passé au retour de l'Égypte à peu près toute sa vie au cœur de Paris, puisqu'il a habité au Faubourg Saint-Germain. Ensuite, il a été logé à la Bibliothèque royale, rue de Richelieu. Et puis, quand les travaux de la Brouste ont démoli la partie de la Bibliothèque royale où il était installé, il s'est installé rue de Seine. Donc, il a vécu au cœur de Paris. Ce qui est, je trouve, assez extraordinaire, c'est que cet homme n'est jamais retourné en Égypte.
Oui, c'est ça. C'était ma dernière question que vous avez devancée. Mais c'est étonnant qu'il ait jamais eu envie.
Voilà. Pourquoi ? On peut se demander. Certainement, il eût été accueilli à bras ouverts par Mehmet Ali, sinon par son premier successeur Abbas, du moins par Saïd. Il aurait été accueilli à bras ouverts, d'ailleurs. Mais il n'est jamais retourné en Égypte. Et pourtant, quand l'Institut égyptien a été créé en 1858, ce nouvel institut s'est doté d'une médaille au revers de laquelle il y a trois noms écrits, Bonaparte, Monge et Jomard.
C'est merveilleux.
Il a laissé un grand souvenir. Il n'est jamais retourné en Égypte. Peut-être pour ne pas abîmer ses souvenirs.
Merci Yves Lessu. Jomard est mort à la tâche, puisqu'on l'a retrouvé affaissé à sa table de travail le 23 septembre 1862. Et en guise d'épilogue, je me contenterai de citer une phrase de votre livre. C'est un contemporain qui l'évoque. On se souviendra de ce vieillard alerte, toujours pressé, s'aventurant à toute heure dans les rues, toujours à pied, toujours seul. On se rappellera l'animation qu'il mettait à toutes les entreprises qui pouvaient être fécondes. Voilà, cet habit vert prend fin avec un extraordinaire personnage emblématique de l'Institut, Jomard l'Égyptien.